Voilà, Marc-André, je sais qu'on a quelqu'un
oui.
en entrevue qui nous attend.
Oui, exact. On devait lui parler un peu plus tôt, mais en tout cas, bref.
On lui parle pareil.
On l'a là et je suis très, très content de l'avoir, pour vrai. Comme je le disais un peu plus tôt, on parle du livre « Opération Scorpion, le fléau toujours grandissant de la prostitution juvénile ». Et comme je disais, venant moi-même de Québec, je me rappelle de ces souvenirs-là. Et ça avait frappé très fort. Et pour nous en parler, elle est une co-auteure, entre autres, de ce livre-là. Marina Mourani également, elle est criminologue, on l'a avec nous. Bonjour Madame Mourani, vous allez bien?
Ça va bien et vous? Et désolé, hein, on y a eu comme une petite incompréhension quant à qui appelle qui en fait.
C'est vraiment pas grave, écoute, ça me fait plaisir quand même de vous parler, peu importe l'heure, je suis très heureux de vous avoir avec nous.
Pareillement, pareillement.
Bon, ce livre-là, on sort ça fait 20 ans. On pose la question, c'est quoi exactement le but visé qu'on veut avec ce livre-là, Madame Mourani?
En fait, plusieurs objectifs. Tout d'abord, rappeler un peu, faire l'autopsie hein, de cette enquête-là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites en 2002-2003, là, quand c'était aussi un petit peu la folie médiatique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Donc, au fond, la première partie du livre explique vraiment l'enquête en détail. Une vraie autopsie, là. Comment ils ont fait pour attraper les proxénètes, comment ils ont fait pour attraper les prostitueurs, aider les victimes, etc., l'écoute électronique, les filatures, etc., etc. Donc, ça raconte l'histoire. Puis, je l'ai écrit au jeu, hein, le jeu de l'enquêteur qui, lui, raconte ça aussi avec émotion, avec ce que lui-même a pu vivre à cette époque-là. L'autre partie du livre est un peu, moi, ce que j'appelle comme une analyse 20 ans plus tard de l'enquête, pour mieux comprendre c'était quoi les réseaux. Est-ce qu'il y a vraiment, y avait-il vraiment un gang du nom de Wolf Pact à ce moment-là? Est-ce que ces réseaux-là se connaissaient? Est-ce qu'ils avaient des liens? Comment ils font pour recruter les filles? Comment ils font, comme ils disent eux-mêmes, faire la tête à une fille puis dresser une adolescente de telle sorte qu'à un moment donné, ils peuvent la vendre et la prostituer? Qui sont ces proxénètes? Qui sont ces prostitueurs, ceux qu'on appelle clients? Donc, au fond, c'est un outil de prévention. Un parent qui lirait ça, ça va lui donner vraiment plusieurs cues de comment en parler à son enfant quand le moment viendra. Et puis moi, je vous dirais, comme c'est écrit un peu comme un roman, et que les jeunes, je vous dirais, à partir de 13-14 ans, ils en savent déjà bien plus que leurs parents. Pour moi, un ado de 14-15 ans, il serait tout à fait capable de lire ça et de comprendre pour pas se faire hameçonner par ces gars-là.
Et j'aime le titre du livre parce qu'on dit un fléau toujours grandissant de la prostitution juvénile. Parce que même après l'opération Scorpion qui s'est passée il y a 20 ans, ça n'a pas éradiqué le problème.
Non, pas du tout. Moi, je vous dirais, vous reprenez cette histoire-là, vous changez un peu les personnages, puis les réseaux, puis vous trouvez la même affaire, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, que ce soit aussi les ramifications dans plusieurs régions du Québec. Malheureusement aussi, ça s'en va jusqu'à d'autres provinces et ça s'en va jusqu'aux États-Unis. Donc, malheureusement, encore de nos jours, on estime que c'est entre 30 et 40% de la prostitution qui est juvénile au Québec. On n'est pas en Thaïlande, là.
Mais c'est tout près de la moitié, là.
Ouais. Et puis l'âge moyen, là, c'est à peu près 13 ans.
Incroyable.
Et on
se demande comment ça se fait que ces jeunes-là finissent par se faire prendre sous cette emprise de ces gens-là, de ces proxénètes-là, et de vendre leur corps, finalement.
Mais en fait, c'est parce que ils ont une technique vraiment très puissante hein, au niveau psychologique. D'abord, ils vont tout faire pour aller les chercher jeunes. Hein. Plus c'est jeune, plus c'est malléable, plus c'est naïf, malgré tout, hein, malgré les réseaux sociaux, malgré que nos jeunes sont bien plus éveillés qu'à nos propres époques, là. Mais quand même, c'est ça qui est assez fascinant c'est qu'ils vont leur vendre un rêve, hein. Ils vont leur vendre le jet set, la vie à la Kim Kardashian. Ils vont lui vendre l'amour avec un grand A. Les victimes ne se rendent pas compte, hein, que c'est leur proxénète, hein. Pourtant, ils voient bien qu'il y a d'autres filles qui sont là. Ils voient bien que ces filles-là se prostituent. Mais ils ont toujours cette espèce de pensée imaginaire que c'est à elles que ça arrive, pas à moi. Jamais. Moi, il m'aime. Moi, je suis sa blonde. Je suis vraiment sa conjointe. Puis d'ailleurs, les deux leaders des deux cliques importantes, soit la clique à Lovinsky et la clique du Wolfpack, ben leur conjointe était elle-même des danseuses et des prostituées. Donc, vous voyez, leurs propres femmes, ils en font des prostituées, ces proxénètes-là. Donc, au fond, ce que je dis toujours aux parents, il n'y a pas de profil de fille ou de garçon, parce qu'on parle des filles, parce que c'est quand même près de 85% du marché est constitué de fillettes, d'adolescentes et de femmes adultes. Mais il y a une bonne partie aussi, une certaine proportion, c'est des jeunes garçons. Puis à Québec, il y avait un réseau de jeunes garçons que Scorpion a eu connaissance, mais n'a pas pu enquêter parce qu'ils en avaient plein les bras. Mais l'information, à partir du moment là du 17 décembre, si ma mémoire est bonne, qu'ils ont fait leur point de presse et qu'ils ont informé la population de la présence de ces réseaux-là, des arrestations, etc., il y a eu un méchant paquet d'informations qui est rentré par après, des centaines d'informations qui racontaient l'histoire de plusieurs petits réseaux autour de tout ça, dont celui des petits garçons. Et eux, ils ont comme donné ces informations-là pour que ça soit traité. En fait, il aurait fallu plus d'une dizaine d'autres enquêtes Scorpion de la même ampleur là pour pouvoir encore démanteler d'autres réseaux, puis ce n'était pas assez. Donc, au fond, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, n'attendez pas que votre enfant soit dans cet engrenage, parce que c'est extrêmement difficile de l'en sortir, surtout quand il est dans sa phase de lune de miel, où vraiment tout est beau, il m'achète des cadeaux, il m'aime, moi, c'est pas comme les autres... à ce moment-là, le parent, il n'a absolument aucun impact dans la tête du jeune. Pour lui, il est avec l'homme qu'il aime. Et en même temps, je dis toujours aux parents, ne coupez pas le lien, parce que j'ai des parents qui sont extrêmement terrassés, hein, et qui disent, c'est pas ma fille, je veux plus rien savoir. Sinon, ça, c'est la pire des erreurs, c'est de toujours garder le lien. Parce que quand la lune de miel va finir, ben la personne qu'elle va appeler, c'est toi. Alors, faut toujours garder le lien, mais il n'y a rien de mieux que la prévention. Moi, je l'ai constaté, les jeunes qui reçoivent de la prévention sont beaucoup plus malins, beaucoup plus alertes. Même sur le web, ils vont se méfier, parce que sur le web, ils recrutent beaucoup. Ils vont venir sur Facebook, Instagram, Snapchat. Puis les filles, elles s'exposent, elles se mettent à moitié nues, avec des poses sexy. Donc au fond, ces gars-là, ils prennent des avatars, ils se font passer pour des mineurs. Parfois, ils ont 10 comptes, 11 comptes, c'est pas juste un là. Ils sont devant leur écran avec plusieurs comptes et puis plusieurs... Tu sais, ils prennent ils font croire qu'ils sont mineurs, ils font croire qu'ils sont des filles pour attraper d'autres filles. Et quand les jeunes sont pas sensibilisés, ils vont se laisser prendre, parce que ces gars-là, ils vont analyser ton profil, ils vont voir quel genre de fille avant d'attaquer, c'est-à-dire avant de cibler quelqu'un, ils vont l'analyser. Est-ce que c'est une fille facile? Ils vont pas aller voir par exemple des profils où les filles sont très straight puis s'exposent pas, ouais, puis sont c'est... Non, ils vont aller voir les filles qui s'exposent déjà. Par exemple, au temps de Scorpion, ils recrutaient dans les écoles, ça se fait toujours. Ils recrutaient, par exemple, à la place Laurier. Puis la stratégie à la place Laurier, c'était quoi? C'était le gars, il débarquait, super cool, super le fun comme gars. Il repérait les filles avec des attroupements au moment du midi. Là, les jeunes, ils se retrouvaient. Regardaient les filles qui étaient avec les gars, ils approchaient les gars. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette fille? Es-tu facile? Sortirais-tu avec moi? Il testait les filles avec les gars. Alors, les gars qui leur disaient, ah ouais, elle, tu peux, parce qu'elle est sortie avec lui, puis elle a couché avec lui, puis couché avec lui. Déjà, eux, ils savent que c'est une bonne, c'est une bonne cible. Donc, ils vont chercher les filles qu'ils estiment faciles au niveau sexuel, que ça va être plus facile pour eux de les désinhiber et de les amener à faire des orgies, des choses comme ça. Alors, ils sont pas fous, hein. Ils analysent, ils identifient, et après ça, ils font du dressage. Donc, ils vont passer de la séduction à la manipulation, et quand ça résiste un peu, ils passent à la violence. Ils sont tellement doués là-dedans que, au bout du compte, la fille, elle fait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'ils veulent. C'est soit je suis trop amoureuse, soit je suis terrifiée.
Ouais,
puis il y a des grandes violences qui sont faites.
Madame Morani, tout à l'heure, on a parlé, Marc-André et moi, ces jeunes filles là, qui ont été victimes de ça, est-ce qu'ils ont du support? Est-ce qu'elles sont laissées à elles-mêmes?
Malheureusement, parlons des filles de Scorpion. Les filles de Scorpion, elles ont, je dirais, une bonne partie d'entre elles ont été vraiment terrassées. Il faut savoir que plusieurs victimes, autour d'une dizaine, qui ont dû subir la double victimisation du tribunal. Dans le livre, d'ailleurs, je raconte l'histoire de une des victimes, Rachel. C'est un nom fictif que j'ai rencontré, et elle m'a raconté comment ça a été extrêmement humiliant, douloureux, traumatisant pour elle de passer à la cour. Et il y avait des questions du style, c'était à quelle heure que tu l'as fait, te souviens-tu exactement de la position? Puis c'était abominable. Et n'oubliez pas, hein, l'enfant a 16 ans là, c'est 15-16 ans là, ces jeunes là puis là, se mettre devant, hein, raconter l'histoire plusieurs fois devant les agresseurs. D'autre part, il y avait un avocat de la défense qui voulait montrer que la fille avait l'air d'une femme et non pas d'une jeune fille. Il est parti montrer une photo d'elle à l'hôtel avec une espèce de robe de chambre entrouverte. Toi, t'es là, t'es assis là, t'as 16 ans et le jury qui te regarde. Puis cette photo qui est montrée pour montrer ton corps, hein, à plein d'inconnus dans un tribunal. Ça, à mon avis, maintenant, on le verrait plus. Parce que il y a quand même un guide qui a été mis en place pour ce qu'on appelle les témoins vulnérables. Il y a un accompagnement qui est fait. Et malheureusement, dans Scorpion, Roger, par exemple, Roger Ferland avait promis aux victimes de faire tout en son pouvoir pour les protéger si elles témoignaient. Et il a vraiment fait tout en son pouvoir. Mais malheureusement, son pouvoir était très petit et il ne le savait pas lui-même. C'est quand il s'est retrouvé à la cour qu'il s'est rendu compte qu'il n'a même pas pu offrir à ces victimes-là le même service qu'on donnerait à Hells Angels, qu'on veut protéger. Voyez. Alors, ces femmes-là, non seulement actuellement, celles que j'ai rencontrées après 20 ans, hein, ne sont plus les mêmes. Hein, elles sont. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, qui sont retournées à l'école, qui se sont trouvées un travail, une profession, qui ont eu un conjoint bienveillant, donc ont eu des enfants et tout. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais malgré tout, elles ont toutes été extrêmement traumatisées et blessées. Et il y en a que ça se voit même au niveau physique, là, au niveau de la santé physique, que ce soit par des cancers, des problèmes de cœur, des problèmes au niveau génital, etc. Et bien sûr psychologique, dont on ne peut pas évaluer l'ampleur. Alors c'est d'une très grande tristesse, les victimes de Scorpion, mais pas juste celles de Scorpion. Moi je rencontre, ça fait plusieurs années, écoutez, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, et j'ai rencontré un bon paquet de victimes, et même des filles que j'ai rencontrées plus d'une fois, c'est-à-dire je les ai rencontrées quand elles étaient dans la prostitution, et qu'elle me disait, Maria, c'est mon choix, je suis très heureux, je fais de l'argent, je fais du porno, puis j'aime ça, et puis c'est pas incorrect. Puis quand je les ai revus 5 ans plus tard, me dire, Maria, t'avais tout à fait raison, je vivais sur un... Tu sais, je me suis fait une carapace, parce que sinon j'aurais jamais pu faire ça. Je me mentais à moi-même, regarde-moi, je suis complètement détruite. J'ai honte, ça c'est le mot qui revient beaucoup, j'ai honte. J'ai mal, ils ont tué mon âme. C'est pour ça que j'ai utilisé ce titre-là. Je les ai appelés dans le livre Les Tueurs d'âmes, parce que ça revenait beaucoup quand je faisais mes entrevues avec les victimes, pas seulement de Scorpion, hein, d'autres enquêtes que j'ai faites. Quand je leur posais la question, c'est quoi le plus terrible pour toi de la prostitution? C'est quoi que tu ressens le plus terriblement? Je me serais attendue à du genre physiquement ou psychologiquement, non, mais c'était plus profond que ça. Elle me disait, c'est comme si on avait tué mon âme. C'était fort. Moi, je suis toujours restée, comment dire, ça m'a toujours stupéfiée de l'entendre, pas d'une personne, de plusieurs victimes avec qui j'ai parlé et qui ne se connaissent pas. C'est vraiment assez particulier. En fait, il y a deux termes qui reviennent souvent dans mes rencontres. Premièrement, c'est comme si on a tué mon âme. Et l'autre phrase que j'entendais beaucoup quand je leur posais la question, c'est quoi pour toi la prostitution? Elle me disait, c'est un viol tarifé.
C'est
fort.
Oui, c'est fort, hein? Très fort, c'est... comme phrase.
Ah ouais, ça moi résume. J'étais là, je dis, mais c'est vrai au fond. Mm-hmm. Elle me dit, Maria, moi je leur ai donné l'autorisation de me violer en me payant. C'est ça la prostitution.
Carrément. Si on revient un peu sur l'opération Scorpion qui est arrivée dans le temps, je me souviens, ça a été extrêmement médiatisé. Est-ce que ça a joué un peu contre toute l'opération qui s'est faite autour? Parce que justement, les filles ont été beaucoup exposées, les victimes à ce moment-là ont été beaucoup exposées. Est-ce que ça a joué un rôle important dans cette enquête-là?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une excellente question. En fait, le rôle des médias a été double. Au début, il a permis un petit peu en mettant sur la sellette l'enquête, il a permis de pas comment dire fermer la porte trop rapidement. Donc au fond, quand ils ont fait le premier point de presse, ils ont aussi mis en ligne une ligne ouverte qui s'appelait Agir pour permettre aux informations de rentrer. Alors la médiatisation a servi à ça, elle a servi à booster l'enquête, Et certains journalistes, particulièrement un journaliste, avait eu l'idée d'aller chercher à la cour les affidavits. Et à ce moment-là, l'un des affidavits n'avait pas été scellé. D'ailleurs, maintenant, les policiers font plus de terreur. Mais là, il y en avait un qui l'avait échappé, puis le journaliste a été assez correct pour les informer et de dealer un petit peu entre l'information qui sortirait et la protection des agents doubles et des victimes. Mmh. Alors, ce média-là, veut pas, et bien d'autres, ont mis du gaz, voilà le terme exact, ont mis du gaz à cette enquête-là. De l'autre côté, il y a eu, c'est comme un épée à double tranchant, en fait, c'est que à force de parler avec les familles, les victimes, parce que c'est ça, il y avait des témoignages qui sortaient à droite, à gauche, dans les médias, ben ça a fait que les avocats de la défense ont utilisé ça au tribunal. Alors ouais, mais là elle a dit ça dans le journal X, et puis là elle dit ça dans sa déclaration KGB, vous êtes une menteuse. Alors ça a été un petit peu le bordel à cause de ça, mais en même temps je vous dirais ça a mis un peu de, ben, c'est pas tous les médias, mais dépendamment des médias, il y en a qui ont un petit peu mis de l'eau au moulin de la rumeur. Alors là, c'est parti en vrille, parce que il y avait eu des politiciens, pourquoi vous continuez pas, il y a des pressions politiques pour arrêter tout ça, etc. Donc, les médias, ça a beaucoup joué dans cette enquête-là, du bon côté et parfois du moins bon côté.
Oui, effectivement. Ben, on se rappelle, ce qui avait beaucoup sorti, on se rappelle surtout des clients qui étaient là, entre autres. J'en parlais à un ancien animateur de radio, entre autres, là, qui, son nom avait sorti. Et ces gens-là, les clients, à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment fait de prison.
Tout à fait. Ça, c'est ça le plus terrible. C'est qu'il y avait autour de, si ma mémoire est bonne, 16 ou 17 prostitueurs qui ont été arrêtés. Ils ont tous eu des sentences bonbons. Bon, c'était soit des sursis, des amendes, des travaux communautaires, etc. Et puis n'oublions pas, hein, c'est des agressions sexuelles sur des mineurs, c'est-à-dire ils ont payé pour un viol tarifé sur des mineurs.
Absolument.
Alors, hein, s'ils avaient fait la même chose, exactement la même chose, sans payer, ce serait tous des condamnations d'agression sexuelle.
Absolument.
C'est fou, hein, imaginez ça, là. T'sais, moi, parfois, je suis là, je capote, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'en leur donnant des... Parce que jusqu'à présent, le novembre 2014, la loi canadienne a changé sur la prostitution en incluant la criminalisation de l'achat de services sexuels. Au Canada, il est interdit d'acheter du sexe, que ce soit d'un adulte ou d'un mineur. Actuellement, les sentences sont toujours des sentences bonbons. Et en même temps, les arrestations de clients ne sont pas énormes. Malgré qu'on ait une escouade intégrée de lutte au proxénétisme, quant à moi, ils devraient ajouter et des prostitueurs. Peut-être que là, peut-être le mandat va être plus pris en considération, mais il y a encore énormément d'efforts. Alors qu'à cette époque-là, cette loi-là n'existait même pas.
Non plus.
Et ils ont pu avoir 17, si ma mémoire est bonne, là je vous dis en toute réserve, 16 ou 17 clients, mais il y en avait un méchant paquet qu'ils n'ont pas pris. Dans leur filet. On parle d'une centaine, plus d'une centaine.
Ah, c'est clair. Là, on a seulement un peu secoué le pommier. Il y en a quelques-uns seulement qui sont tombés, mais d'après moi, il y en avait encore de ben ben attachés après l'arbre. Et j'ai l'impression également que peut-être cette loi-là pourrait être revue encore une fois en 2022. Je sais pas. Vous me parlez de ça, mais on pourrait peut-être, je sais pas, réglementer, légiférer que ce soit peut-être plus sévère.
Ben, vous savez, c'est ça le grand problème, c'est que actuellement, bon, il faut savoir que la loi que nous avons, c'est exactement à peu près dans la vision de ça, là, la philosophie autour de ça, c'est exactement la même que celle des Suédois et des Norvégiens. Mm-hmm. C'est-à-dire les Suédois, ça a été les premiers dans les années 90, 1990 même, ils ont mis en place cette loi-là où ils ont criminalisé l'achat de services sexuels. Actuellement, dans ce pays-là, la traite des personnes est presque inexistante parce qu'il n'y a pas de demande. Mmh. Alors, depuis 90, ils n'ont pas juste travaillé à arrêter des clients. Ils ont travaillé à changer la mentalité de la population suédoise. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, quand vous partez en Suède, faites-le juste pour un test, à la blague. Parlez avec un homme suédois en lui disant « J'aimerais ça aller voir des prostituées. » Il va vous regarder comme si vous étiez un extraterrestre. C'est carrément, parce que pour eux, la mentalité a changé. Vous voyez, de 90 à nos jours, un Suédois, c'est impensable que tu veuilles acheter le sexe des femmes et des enfants. Impensable dans sa tête. Ça a permis des grandes avancées. Nous, actuellement, notre problème, c'est qu'on a des groupes qu'on appelle pro-travail du sexe, qui sont d'ailleurs en accord avec la prostitution des mineurs, pour l'avoir entendu dire de certaines personnes qui sont dans ce milieu-là, parce que moi je m'amuse parfois, je leur dis « Ouais, mais si c'est un travail, il pourrait commencer à 14 ans, comme n'importe quel travail, non ?»« Ah oui, vous avez raison. Ah, d'accord, j'ai raison. » Vous comprenez? C'est-à-dire, dans cette mentalité-là, non seulement pour eux, c'est tout à fait correct, parce que pour eux, c'est un travail. Hein. Donc, alors, tout ça pour dire quoi? Tous ces groupes-là, actuellement, à l'heure où on se parle, sont en train de contester la loi actuelle. Ils veulent décriminaliser les prostitueurs, les clients de prostitution, même pour les mineurs. Ils veulent décriminaliser. Ils pensent que c'est de la marijuana, eux autres.
Ben oui, c'est ça. Voyons donc.
Ça n'a pas de foutu bon sens.
Ça n'a pas de bon sens, partout.
C'est pas de la marijuana, là. On n'est pas en train de parler d'alcool. On parle d'êtres humains qui vont avoir des blessures à vie. Et vous me dites quoi? Oh, mais c'est un travail. Mais c'est bizarre, hein, parce que moi, là, toutes les femmes, toutes que j'ai rencontrées, m'ont jamais dit que c'était un travail, puis qu'elles étaient heureuses de le faire, et puis que c'était donc ben un choix de vie, puis que maintenant elles sont épanouies et elles vont faire une très belle retraite. C'est bizarre.
Madame Maria Mourani, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On aurait pu en parler encore pendant un autre 25 minutes. Vous êtes très intéressante. Malheureusement, il faut s'arrêter. Merci beaucoup. Une belle journée à vous.
Grand plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir. Donc, le livre Opération Scorpion, le fléau toujours grandissant de la prostitution, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça a été coécrit, entre autres, avec l'enquêteur Roger Ferland et Madame Marie Amourani, qu'on vient de parler. Très intéressante, la madame,
ouais,
honnêtement.
Ouais.
Et
c'est là qu'on voit que les victimes, en fait, de ces proxénètes gardent des séquelles
absolument
à vie. Pas temporaire, là.
Non,
à vie.
Incroyable. On va faire une courte pause au retour. Les nouvelles.